Les colloques du Collège de France.
Donc Marco Fressura, qui est professeur associé de papyrologie à l'Université de Roma-Tré. Vous avez été un membre actif du projet REDIS du professeur Dario Mantovani et vous êtes actuellement un des coordinateurs du projet BERLIT, qui consiste dans l'édition de papyrus littéraires grecs et latins inédits de la collection qui est conservée au musée égyptien de Berlin. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur les textes bilingues, latin et grec, et notamment sur les corpus de papyrus bilingues de l'Énéide. Et ce soir, nous allons avoir le plaisir de vous entendre sur les hellénophones d'Orient face à la littérature latine entre le 3e et le 6e siècle, dans la perspective de nous montrer la gloire du paratexte. Je vous donne la parole.
Merci, madame, pour votre présentation et merci à Arnaud, Francesca et Dario pour leur invitation. Ceci est le paratexte de mon intervention. Avec l'affirmation de la dynastie de Sévère, à partir de la dernière année du Xe siècle, l'Empire de Rome pose les bases de sa transformation en Empire des Romains. Il s'agit d'une distinction importante si l'on considère que l'État romain survivra pendant près de 1000 ans à la perte définitive de ses territoires occidentaux, y compris l'Italie et la ville de Rome. Et que, durant toute cette période, ses empereurs, ses lois, sa bureaucratie, sa liturgie et sa littérature s'exprimeront en grec. Au point que les Grecs eux-mêmes, depuis la perte de leur liberté au XVe siècle jusqu'à la épanastase du XIXe siècle, continueront à se nommer Romaioi, ou bien Romei, avant même de se dire Hellenes. Les trois premiers siècles de ce parcours millénaire présentent toutefois des aspects apparemment paradoxaux. Pour parler d'Empire des Romains, il faut d'abord précisément des Romains. À cette nécessité dut répondre l'empereur Caracalla, qui par sa constitution de l'an 212 étendit la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire. Au moins sur les plans théoriques, l'octroi de la citoyenneté entraîna aussi la généralisation de la validité du droit romain et les sources du droit romain, les lois comme la jurisprudence, s'exprimaient en latin. Ah, voilà quelque chose. Il ne serait donc pas surprenant que les hauts fonctionnaires égyptiens Sarapion, originaires d'Oxyrhynque, à peine devenu Aurelius, se soit effectivement procuré un exemplaire des institutions de Gaius, copié par un scribe expérimenté dans la rédaction des documents. Que Sarapion ait ensuite été capable de comprendre ces livres est une autre question. Au début du IIIe siècle, en effet, l'Orient romain, marqué par une acculturation grecque ancienne et continue, ne connaissait l'usage du latin que dans le cadre limité des colonies et des milieux militaires. Bien entendu, la constitution de Caracalla n'est pas profondément modifié cette situation, ni entraîné une véritable et durable latinisation de la bureaucratie orientale. Mais il est certain que, surtout à partir de l'époque tétrarchique et constantinienne, inscription et papyrus témoignent d'un accroissement sensible de la diffusion de la langue et de la littérature latine dans les territoires hellénophones de l'Empire. La dernière impulsion positive en faveur de ce phénomène doit être attribuée à la publication du Code théodosien en l'an 439, mais cela ne suffit pas à en empêcher le déclin et l'extinction. En effet, environ un siècle plus tard, la promulgation du Corpus Iuris de Justinien, presque entièrement rédigé en latin, est destinée à un empire désormais privé des territoires latinophones, porta un coup mortel à la langue de Rome. Une fois le corps du droit réduit à une mesure certaine, pour reprendre une expression adoptée par Justinien lui-même, il ne restait plus qu'à traduire et à résumer les textes en grec pour la pratique quotidienne et pour l'enseignement, selon une habitude déjà bien établie dans les écoles. Il faut pourtant faire quelques pas en arrière et revenir à la phase vitale de la présence du latin dans l'Orient romain entre le IIIe et le VIe siècle. S'il est vrai que dans ce territoire, la connaissance du latin s'était effectivement révélée un instrument efficace de promotion sociale et professionnelle, on comprend alors l'intérêt des Romains et hellénophones pour cette variété de livres destinés à l'apprentissage linguistique, qui, comme en témoignent les papyrus, atteignent à l'Antiquité tardive leur plus haut degré d'élaboration textuelle et graphique. Et je vous montre quelques exemplaires. Il s'agit des matériaux bilingues gréco-latins et latino-grecs, tels que des listes des mots, souvent organisées selon un critère alphabétique, thématique ou grammatical, des textes continus dotés d'enceintes complètes, anonymes ou pseudépigraphes, manuel de conversation, modèle de lettres, comme ceci, grammaire, fable, et enfin des véritables éditions bilingues des textes littéraires d'auteurs. Bon, il y a... Ça est... Ceci est une liste de mots, la fable. Voilà. Tous ces matériaux constituent une aide à la lecture des classiques et finalement à l'accès direct dans les cadres professionnels aux sources du droit romain. La circulation dans l'Orient hellénophone de ces deux derniers types de témoignages se consolide rapidement grâce à l'apport de la production locale. Les scribes, avec une flexibilité remarquable, adaptent leurs compétences de calligraphes grecs aux formes de l'écriture latine à laquelle ils doivent désormais se confronter afin de répondre à la demande des commanditaires. Ils laissent ainsi leur empreinte caractéristique, comme dans cette copie de Libri Responsorum de Papinien, ou dans cette autre de sentencie de Paul. Tous deux sont mis en regard des fragments des manuscrits littéraires grecs qui témoignent des styles d'écriture dont les scribes des manuscrits latins se sont inspirés. Donc, c'est la majuscule biblique et ces types très rares et particuliers d'écriture grecque que je ne saurais pas définir, mais bon. Il en va de même pour des manuscrits d'auteurs littéraires, pour ainsi dire scolaires, comme par exemple Terence, qui dans cette copie se révèle comparable à des manuscrits grecs en majuscule alexandrine, en style proprement égyptien, ou encore Juvenal, transcrit dans cette copie provenant d'Antinoé, dans une écriture onciale, en parfaite interaction avec la majuscule ronde tardo-antique, typique des manuscrits grecs à contenu juridique, comme celui-ci. Ces marques de fabrique orientale, imprimées par les scribes à leur production, pourraient être définies, selon notre regard actuel, comme des paratextes involontaires. Il s'agit de véritables sources d'informations réelles et fiables sur l'espace géographique de la circulation de ces œuvres, Mais les scribes n'entendaient pas nous transmettre cette information, même si l'on peut supposer que l'usage de tel ou tel style d'écriture communiquait quelque chose au lecteur antique qui nous échappe aujourd'hui. Avant tout, peut-être le coût du travail. Mais... Cependant, si nous regardons encore les journaux d'Antinoé, ce qui frappe avant tout l'attention, ce sont les paratextes plus habituels et certainement disposés de manière intentionnelle par trois différents lecteurs sur le texte latin. Il ne s'agit pas d'un travail exégétique particulièrement raffiné, mais par son attention portée à des phénomènes linguistiques et syntaxiques élémentaires, il se révèle assez bien exécuté. Dans l'ensemble, on y reconnaît des annotations des synonymes, l'intégration d'éléments implicites, des traductions en grec des mots isolés, des paraphrases, ainsi que des sortes de petites rubriques ou entretitres. Cet exemple peut également valoir pour d'autres cas de manuscrits d'auteurs classiques copiés et utilisés en Orient. Et en ce qui concerne les manuscrits juridiques, nous avons déjà beaucoup appris grâce à l'intervention de Dario Mantovani. Quant aux manuscrits bilingues gréco-latin et latino-grec utilisés pour l'apprentissage linguistique, j'éviterai aujourd'hui de proposer un inventaire des phénomènes paratextuels internes qui risquerait, à mon avis, de produire un résultat assez répétitif, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Je préférais plutôt m'arrêter maintenant sur un petit cas curieux de philologie du paratexte, c'est-à-dire d'un paratexte retrouvé dans un fragment des manuels de conversation latino-grecque, et puis passer à l'examen sur un plan plus général d'un genre particulier des paratextes externes et mobiles qui naît et demeure matériellement en dehors de son texte de référence. Je parle des éditions bilingues d'auteurs classiques. Venons donc au manuel de conversation. Il y a quelques années, à Vienne, j'ai examiné un vers contenant deux fragments de papyrus écrits sur les deux faces. Le premier présentait un texte grec d'un côté et latin de l'autre, tandis que le second était en latin sur les deux faces. Donc, un seul numéro d'inventaire réunissait les deux pièces qui pourtant, même à un examen superficiel, ne semblaient pas appartenir à un même objet ancien. Il a été facile d'identifier dans le second fragment un morceau d'un codex très modeste de l'Énéide de Virgile, mais le texte du premier fragment était incompatible avec cette œuvre. Vous voyez notre fragment, la luce, ecco, scusate, torniamo indietro. Notre fragment, parmi autres fragments de codex très économique de l'Énéide. Il y en a beaucoup, comme vous voyez. Cependant, lorsque j'ai remarqué que l'encre d'une face du second fragment avait laissé son empreinte sur un côté du premier, j'ai pu reconstituer le contexte de la découverte et par conséquent le contexte antique dans lequel les deux papyrus circulaient. Le phénomène du transfert d'encre lorsqu'il s'agit de papyrus tardo-antique est assez typique du matériau extrait d'un cartonnage confectionné pour former les plats d'une couverture de codex. Cette partie. Les deux papyrus constituaient en effet des couches en contact direct à l'intérieur d'une masse démontée avant ou après son acquisition par la Bibliothèque nationale autrichienne. Malheureusement, nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, les papiers des rebouts réutilisés pour les cartonnages devaient provenir d'un fond commun composé des manuscrits latins et latino-grecs, par exemple la bibliothèque d'un maître, où une édition économique de l'Énéide aurait parfaitement trouvé sa place. Cette hypothèse de reconstruction m'a conduit à identifier les premiers fragments comme une partie du prologue d'un manuel de conversation latino-grec, le Colloquium Monachense, assez célèbre pour avoir connu une tradition manuscrite bien développée dans l'Occident médiéval et humaniste, tandis qu'en Orient, inutile de le préciser, il avait disparu. Le déchiffrement du texte du papyrus, très endommagé, n'a pas été simple, mais avec l'aide d'une lampe UV, nous avons finalement réussi à en venir à bout. La mise en page du texte est aussi apparue clairement. Il y avait deux colonnes parallèles, l'une pour le texte latin et l'autre pour sa traduction grecque. Va bien. La lampe a d'ailleurs mis en évidence un détail qui, à la lumière naturelle, était à peine perceptible et semblait de toute façon dépourvu de signification dans ces coins. Il s'agit de légères taches qui se sont révélées nettement sous la forme des lettres majuscules grecques Xi, Xi U, c'est-à-dire Xi, Iota, Omicron, Ypsilon, grossièrement tracé par une main secondaire. De quoi s'agit-il? La réponse se trouve de manière quelque peu surprenante dans un groupe de manuscrits beaucoup plus récents qui associent un titre à l'œuvre. Merci. C'est ce manuscrit G est là. Très, très, très récent. Le titre Ex Iulio Polydeuce, rendu en grec par Ex Iulio Polydeucus, c'est-à-dire le grand marien du deuxième siècle, Jules Pollux, Iulius Pollux, ici très probablement invoqué à tort. Mais par qui? Par les humanistes qui jouent de façon irresponsable avec les textes anciens et leurs paratextes? Non, mesdames et messieurs du jury, les humanistes sont innocentes, du moins pour cette fois. Les papyrus de Vienne démontrent en effet que notre manuel de conversation était connu sous le même titre par des étudiants égyptiens vécus environ 1000 ans avant que les humanistes ne mettent leurs mains sur les textes. Avec une morale, certains paratextes ont la peau dure, mais tous ne connaissent pas la même fortune. Les éditions bilingues des textes littéraires latins, également connues sous le nom de glossaires, ont connu un sort particulièrement malheureux. Elles ne nous sont parvenues que sous la forme de fragments de manuscrits déjà mis au rebut dans l'Antiquité. Ces livres, totalement inutiles pour l'Occident latinophone, se servent de circuler en Orient lorsque tout intérêt pour les latins disparut, peut-être dès le VIe siècle, époque à laquelle se rattachent les témoins les plus récents. Ce qui subsiste aujourd'hui est très limité. Pour la poésie, 11 fragments de l'Énéide et un de Géorgique de Virgile. Pour la prose, 4 fragments de Catilinaire de Cicéron. Je vous montre seulement le papyrus de Virgile, en particulier l'Énéide. Il y en a des types très différents. Celle-ci et les derniers. Et il s'agit d'un palimpseste. Il n'est pas proprement un papyrus, mais tout de même. Voilà. Il s'agit des manuscrits qui présentent les textes originaux, les textes latins originaux, décomposés en brèves lignes, formant une colonne étroite, à côté de laquelle se dispose parallèlement une autre colonne contenant les traductions grecques et disposée de manière que les lemmes et les interprétamenta, c'est-à-dire les traductions, correspondent de façon univoque. Dans le cas le mieux connu des glossaires l'Énéide, il semble qu'une édition typique ait contenu le texte intégral des trois premiers livres du poème, tandis que des livres 4 et 5, elle fournissait seulement une sélection de mots. La nature paratextuelle des glossaires virgiliens est suggérée par la manière dont il était utilisé. Il est en effet plausible qu'un lecteur antique ne se servit pas de la colonne latine pour lire les textes de l'Énéide, mais qu'il effectuait cette lecture sur une édition, pour ainsi dire, normale du poème, c'est-à-dire uniquement latine. Ce n'est que lorsqu'il rencontrait des difficultés de compréhension qu'il recourait à la colonne grecque du glossaire, lequel se trouvait matériellement conservé dans un manuscrit distinct. La disposition du texte en deux colonnes étroites, où les lemmes et les interprétamenta étaient mis bien en évidence, facilitait précisément une consultation discontinue du glossaire, dans lequel on recherchait, selon les besoins, les passages d'intérêt. L'opération exigeait d'abord l'identification du passage dans la colonne latine, puis le regard s'est porté vers la colonne grecque correspondante pour la lire. Plusieurs indices permettent de reconstituer cette procédure. Plus généralement, il est significatif que les sites de découverte des glossaires, lorsque leur identification est assurée, aient également livré des fragments contemporains d'édition latine ordinaire du poème. Et cette observation est particulièrement importante dans le cas de la petite cité palestinienne de Nessana, où au VIe siècle, un glossaire virgilien et une Énéide latine furent conservés simultanément dans une bibliothèque, dans une même bibliothèque. Voilà. Nous sommes ici en plein désert. Les glossaires et l'Énéide latine. Il est en outre évident qu'une lecture hypothétique du texte latin directement à partir du glossaire n'était praticable que pour les trois premiers livres de l'Énéide transmis intégralement, mais qu'elle devenait impossible pour les livres 4 et 5 transmis sous une forme incomplète. Le texte latin intégral auquel la traduction s'est rattachée devait donc, dans ce cas, se trouver ailleurs, c'est-à-dire dans un manuscrit autonome. Il y a toutefois davantage. Les lecteurs ont dû parfois rencontrer dans les glossaires une variante par rapport au texte transmis par les manuscrits virgiliens qu'il était en train de lire. La variante latine du glossaire était donc automatiquement corrigée et alignée sur le texte du manuscrit de référence, même lorsque la leçon de ce dernier était inférieure à celle du glossaire. C'est fait révèle encore plus clairement la perception du caractère subordonné, autrement dit paratextuel, du glossaire. Nous avons jusqu'ici établi une sorte de gradation entre deux niveaux paratextuels. La colonne grecque du glossaire rend consultable l'Énéide latine copiée dans un manuscrit autonome. La colonne latine du glossaire rend à son tour consultable la colonne grecque. Mais il est possible d'aller plus loin à condition d'accepter de comprendre les paratextes dans une acception non seulement verbale. Les manuscrits même qui transmettent les glossaires montrent en effet que l'interaction entre colonne latine et colonne grecque ne suffisait pas à garantir une consultation optimale. La fragmentation de l'unité originelle du vers sur plusieurs lignes priver les lecteurs du premier niveau d'analyse et d'orientation, constitué précisément par la reconnaissance du vers. Dans l'exemplaire que je vous montre, une main secondaire a inséré des lignes horizontales, les paragraphoi, en correspondance avec les lignes latines, afin de signaler les passages d'un vers virgilien à l'autre. ici, 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 ici. Ok. Alors, lorsqu'une même ligne contient à la fois les dernières lemmes d'un vers et les premiers lemmes du vers suivant, un point est ajouté entre les deux, perfectionnant ainsi la fonction de la paragraphos. Ce même exemplaire témoigne parfois d'un certain degré de remaniement du texte, destiné à en faciliter la compréhension. En particulier, l'ordre des mots est modifié afin de mettre en évidence l'accord entre des éléments séparés, par exemple par un hyperbate. Cette amélioration apparente, qui relève de l'aspect verbal du paratexte, exige toutefois un contrepoids de nature non verbale, à savoir la mise en évidence des modifications par des faux accents ajoutés sur les mots qui ont été déplacés. Bon. D'autres manuscrits, graphiquement plus élaborés, ont été conçus pour répondre immédiatement aux besoins de consultation des lecteurs, manifestement habitués à s'orienter dans les glossaires en repérant d'abord le début du vers examiné. Les manuscrits dont je parle mettent en évidence les premiers mots de chaque vers virgilien au moyen de l'ecthésis, mais uniquement dans les sections relatives aux trois premiers livres du poème qui transmettent les textes intégral. Ici, ici, les premiers mots de chaque vers. Je ne suis pas capable de proposer une explication certaine de ce phénomène. On peut par exemple formuler une hypothèse d'ordre logique. L'ecthésis sert à signaler les vers virgiliens, mais dans les listes de mots sélectionnés des livres 4 et 5, les vers disparaissent. Et avec eux disparaît également l'ecthésis. Mais ça suffit pour le moment. Oh, à titre de curiosité, je m'arrêterai sur un cas de paratexte dans les paratextes qui, du moins en apparence, semble relever d'un excès de zèle. Le glossaire virgilien conservé dans une palimpseste de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan présente en 10 colonnes, analogue par sa forme à notre signe de deux points, destiné à séparer des mots ou des petits groupes de mots placés sur une même ligne. Ici, ici, voilà, aussi dans la partie grecque. Le signe a été apposé avec soin par le scribe principal dans la colonne latine ainsi qu'à la position correspondante dans la colonne grecque. On s'est demandé à quoi pouvait servir ce signe. Puisqu'il n'a ni valeur syntaxique, ni valeur métrique et qu'il ne distingue pas, comme nous l'avons vu précédemment, les lemmes appartenant à des vers différents. Bien que les manuscrits emploient la paragraphos et non l'ecthésis. La réponse est simple. Les 10 colonnes ne servent ici à rien. Les signes ont-ils donc placé de manière illogique ou erronée? Non. Ils obéissent à un critère très précis et transmettent une information exacte, mais apparemment inutile au lecteur. En dehors du groupe virgilien, il existe des rares glossaires où lemme et interprétamento ne sont pas disposés en colonnes parallèles, mais en succession linéaire, occupant toute la page. L'absence d'un espace blanc destiné à distinguer les matériaux lexicaux latins et grecs y est compensée par des signes de 10 colonnes ou analogues. Donc, nous avons lemme, 10 colonnes, interpretamentum, 10 colonnes, lemme, 10 colonnes, interpretamento, etc. Si nous revenons maintenant au glossaire virgilien de la Bibliothèque Ambrosienne, nous observons que la mise en page du texte obéit à une règle extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire chaque page comporte 30 lignes contenant 10 vers de l'Énéide, toujours divisés sur 3 lignes. Aucun autre glossaire de la tradition virgilienne ne présente une organisation aussi stricte. En règle générale, le nombre de lignes occupées par un vers varie. Ces vers sont divisés en 4 lignes. Ceci en toi, encore toi, etc. Un antigraphe de type plus libre, pour ainsi dire, devait se trouver à l'origine de la copie du glossaire ambrosien. Pour respecter la règle imposée lors de la conception du manuscrit, il a fallu parfois redisposer les matériaux issus de cet antigraphe en unifiant des lignes contiguës. Eh bien, les 10 colonnes marquent précisément la frontière entre des lignes originellement distinctes et désormais unifiées. Il est évidemment impossible de dire si le lecteur antique du manuscrit comprenait sans hésitation l'information assez superflue que leur fournissaient les 10 colonnes. Mais j'ose croire que si j'ai pu la comprendre, et aussi en était capable. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.